Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouvel éclairage qui nous permet d'accueillir François Meunier, directeur général adjoint de la COFAS, qui va nous emmener vers une plus grande connaissance de la COFAS, la compagnie. Et je laisse d'ailleurs à François Meunier le soin de nous dire très exactement que veut dire le sigle COFAS.
C'est la compagnie française pour le commerce extérieur.
Parfait.
Mais donc, c'est son ancienne mission, ça a beaucoup bougé depuis.
D'accord.
On dit COFAS.
D'accord, COFAS. Alors, François Meunier, donc, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons faire un tour d'horizon très, très général sur à la fois la COFAS, la conjoncture et la crise financière. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais peut-être vous présenter un peu plus à nos auditeurs en rappelant que vous êtes marié et vous avez 4 enfants. Vous êtes un NSAE et vous avez été pendant 3 ans et vous êtes maintenant passe-président de la DFCG. La très dynamique association des dirigeants finance. Et je crois que vous avez d'ailleurs conservé des responsabilités au niveau du comité scientifique.
Absolument.
En tout cas, bravo pour ce que vous avez fait. Le dynamisme était au rendez-vous. Alors, vous êtes par ailleurs économiste et vous publiez régulièrement des chroniques qui sont très attendues. Et vous venez de participer en brillante compagnie à un ouvrage collectif qui a été publié par le Cercle Turgot et qui doit paraître chez Erol, on va dire, fin mars, dont le titre « Regard croisé sur la crise financière » témoigne du thème que les 25 contributeurs ont voulu développer. Alors, votre contribution personnelle a été très, très remarquée. Il s'agit de la régulation bancaire. La discipline de marché est-elle une illusion? Mais nous y reviendrons un peu plus en avant dans notre interview. Vous êtes par ailleurs membre du jury présidé par Michel Bon du prix Turgot du meilleur livre d'économie financière, dont la 22e édition va se tenir au Sénat le 5 mars prochain, et qui, si j'ai bien compris, a élu par avance une promotion de nominé particulièrement remarquable. Donc rendez-vous le 5 mars au prix Turgot. Eh bien, alors donc je vous reçois en tant que dirigeant de la COFAS, mais bien entendu aussi en tant qu'expert financier, et l'actualité est riche en la matière. Mais peut-être voulez-vous compléter certains aspects de votre parcours particulièrement brillant que j'aurais pu laisser par mégarde sous silence.
Ben, je veux dire un mot de mon début de carrière. Un début de carrière, c'est toujours important parce que ça donne une structuration.
Des fondamentaux.
Un cadre. Bon, on est au fond de la mine et tout ce qui suit en découle un peu. Donc j'ai démarré à l'INSEE, l'Institut National de la Statistique. J'étais administrateur de l'INSEE. J'ai un très grand respect à la fois pour cet organisme et pour le métier de statisticien. Au fond, le statisticien, c'est un peu comme un ingénieur qui, dans une mine, va recevoir une masse de minerais bruts et essayer d'extraire le minerai pur. Et donc, au fond, le statisticien, c'est un ingénieur de l'information. On est un monde couvert, inondé d'informations, et il s'agit d'extraire l'information qui est pertinente pour l'action. Et au fond, cette règle, cette discipline, c'est une science aussi, et fondamentale. Les statisticiens, ils sont partout. J'ai retrouvé à la COFAS ce même esprit qui est surveiller les risques. Ça signifie aussi être capable de les mesurer, de les quantifier, de les sélectionner. Et c'est la même démarche. Donc l'INSEE a été une période d'ailleurs assez étonnante. Si on fait la comparaison avec la période actuelle, j'y étais dans les années, début des années 80. On était encore à cette époque sous l'illusion qu'on pouvait faire de la prévision économique. L'INSEE faisait aussi des études économiques.
Oui, je me souviens.
Et le travail consistait à faire des gros modèles macroéconomiques avec plein d'équations pour prédire la consommation des ménages, le PIB, l'emploi, les prix, etc. Après quelques années, on a bien dû être ramené à un peu plus de modestie. Les modèles quantitatifs, les statistiques, ma foi, restent un peu muettes. La crise présente le monde, le montre. L'avenir, c'est la chose la plus compliquée à prévoir.
Le passé, c'est plus facile.
Prévoir dans le rétroviseur est toujours plus facile. C'est sûr que sur les 5 dernières récessions, on a dû en prévoir 25. Sur les 3 dernières chutes du dollar, on en a prévu 12, etc. Donc, voilà ce qu'est la prévision.
Mais c'est un métier, INSEE, enfin, donc, qui est relativement récent. Je crois me rappeler qu'un de vos illustre prédécesseur, qui porte le même nom que votre président, mais qui n'est pas le même, Jacques-Henri David, a un petit peu lancé... alors, je ne sais pas quel est le parcours...
L'INSEE date de l'après-guerre, clairement. Ça, hein. Elle a été probablement en pointe. Vraiment, il y avait une génération de statisticiens français derrière quelqu'un comme Malinvaux, Jacques-Henri David, vous l'avez cité, bien sûr, qui ont, avaient une réputation internationale. Probablement, l'organisme mériterait d'être un petit peu stimulé. J'observe qu'il y a probablement eu un sous-investissement dans la statistique de base. Il y a eu des gros efforts faits dans la statistique sociale, qui était très peu couvert. On a probablement négligé la statistique économique, la statistique financière. Je ne comprends pas que l'INSEE ne se soit pas emparé du champ de la notation des entreprises. Je ne comprends pas que l'INSEE ne se soit pas emparé de tout ce qui surgit en matière de comptabilité trimestrielle. On est surinformé, les boîtes font leurs comptes à J+2, etc. Tout un matériau statistique qui permettrait certainement aux politiques de mieux suivre la situation économique. Il y a une crise de la statistique publique. Il faut que les gouvernements prennent conscience qu'il est utile, fondamental même d'avoir, et c'est un service public.
Tout à fait.
Il ne faut pas compter sur les banques uniquement pour faire ce service d'économiste et de statistique, parce qu'il faut du matériau de base, sinon on parle un peu dans le vide.
Oui, en tout cas, on voit que ce matériau, vous l'avez conservé, bien présent en mémoire, et bien entendu, dans l'exercice de votre métier d'aujourd'hui, c'est particulièrement utile, même si maintenant vous êtes au niveau de la direction générale. Les fondamentaux sont toujours là.
Absolument.
Alors, l'INSEE, donc, effectivement...
Alors, après, je suis passé dans la banque. J'ai d'abord à Paribas, puis Société Générale, banque d'affaires. Hein, donc, j'y suis quand même resté une quinzaine d'années. Je me sens banquier, plutôt dans la partie banque d'investissement, fusion-acquisition. Et puis,
il y a eu un métier qui est assez mis à mal actuellement.
Oui, bah, c'est très cyclique. Je pense que les fusions-acquisitions, c'est un métier d'agent, de marieur d'entreprise. Et donc, ça participe de la fluidité du marché, du contrôle des entreprises. Donc, ça a des hauts et des bas. Là, c'est clairement...
La partie basse.
C'est clairement, pour quelques temps, la partie basse. Mais ça va revenir. Probablement, d'ailleurs, que la baisse des valorisations d'entreprise va susciter, une fois qu'on sera sorti du tunnel, des reconfigurations. On en perçoit déjà beaucoup dans le secteur bancaire.
Encore faut-il que le traumatisme soit quand même un tout petit peu derrière, mais c'est vrai que les conditions de marché commencent à devenir très très favorables au redéploiement de ce métier.
Alors j'ai quitté fin 99, je vous rappelle qu'il y avait eu une EPA ratée in fine entre Société Générale sur Paribas et puis BNP est venu. Et moi-même qui venais à la fois de Société Générale et de Paribas, était un peu entre l'arbre et l'écorce. Enfin bon, bref, j'ai préféré quitter cette bonne Société Générale.
Donc vous avez travaillé
pour passer à la COFACE
avec un de vos collègues maintenant du grand jury, qui est donc André Lévy-Lang.
Non, j'ai quitté Paribas juste avant quelques semaines avant qu'il soit nommé président. C'était encore François Poncet qui était le président de Paribas.
D'accord. Et donc le métier de banquier, bien entendu, vous est
cher. Le métier de banquier, mais insuffisamment sur l'aspect risque. Au fond, le risque d'entreprise, le risque de crédit, c'est COFACE qui, évidemment, est au cœur de ce genre de problème.
Alors donc, on y arrive. Donc la COFACE a pour mission de faciliter les échanges partout dans le monde en offrant des solutions pour gérer, financer et protéger les postes clients. Elle est l'une des plus importantes sociétés d'assurance crédit au monde. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments d'histoire et surtout développer les différents métiers que la COFACE aujourd'hui assure ?
COFACE, c'est au fond le crédit inter-entreprise. Et je fais un peu de retape. Peu de gens se doutent que le crédit inter-entreprise, ce sont des encours considérables. C'est-à-dire que les entreprises sont les banquiers entre elles. elle parlait bien des liens de commerce, fournisseurs-clients. Elles se prêtent et donc elles empruntent fortement.
Mais quelquefois, ce n'est pas par excès quand même.
On va y venir, mais c'est obligé. On achète un bien, on est prêt à payer cash, mais on a envie de surveiller que le bien, que la livraison se fasse dans les conditions contractuelles. Donc la protection de l'acheteur, ça n'est pas de payer cash, c'est de payer à délai. Donc il y a un motif économique derrière ces délais de paiement. Certainement, il y a autre chose, il y a probablement aussi le fait que les banques, le système financier, bancaire, n'a souvent, dans le passé, pas fait son travail d'aider à financer les entreprises. Et donc, souvent, le financement des entreprises se fait à l'aide des fournisseurs, et probablement à l'excès, pour des raisons de rapport de force, de place du système bancaire, etc. Donc, il y a effectivement une tendance dans le monde à la réduction des délais de paiement, qui est d'ailleurs autant le travail du législateur que de la technologie. Le commerce des biens est davantage surveillé, les normes de qualité, le transport est plus fiable, etc. Et donc les délais de paiement, cette marge de sécurité et de fluidité dans le commerce, peut se faire dans un laps de temps moindre. Alors ceci dit, c'est une masse énorme. Je vais vous surprendre peut-être, le crédit interentreprise en France, c'est équivalent presque au crédit bancaire. C'est 4 fois le crédit court terme. C'est un tiers du PIB français. C'est un peu plus long en délai de paiement en France que dans d'autres pays, mais c'est en gros un quart, un tiers du PIB de tous les pays.
Donc on comprend que le niveau de risque qui est attaché conditionne, on va dire, la santé des entreprises.
Absolument. Et les entreprises, souvent, n'ont pas les moyens qu'a une banque, typiquement, qui est prêteuse, de surveiller la solvabilité de l'entreprise. Et donc souvent, pour une petite entreprise, ça se fait un peu à l'aveugle. Pour les grosses entreprises, elles nourrissent en leur sein des credit managers, c'est une profession riche qui s'est développée, avec tout un tas d'études, d'analyses sur la fiabilité des entreprises. Et donc, Coface, au fond, c'est un acteur, il n'y en a pas beaucoup, qui aide les entreprises à gérer leur compte client, qui est encore une fois, qui peut être 20-30% de leur bilan. La cause majeure et première du défaut d'une entreprise, c'est qu'un gros client n'est pas payé. C'est un enjeu considérable. Donc Coface travaille là-dessus. Alors que ce soit en information, mieux informé, c'est prendre de meilleurs risques, protéger, recouvrer tous les services annexes, un mauvais payeur, il faut aller chercher la créance, et financer. On s'est également mis dans le financement. Et on est devenu, alors Coface était un peu une proche de l'administration, aider le grand export français dans l'après-guerre, et puis progressivement est devenu une société internationale. On est dans plus de 57 pays, je crois, et on développe nos 4 lignes métiers, information, protection, gestion de créances, et désormais.
Et vous êtes passé du secteur public au secteur privé.
Complètement. Complètement. On n'a jamais été une société d'État. Ça a toujours été une société de place, avec de grands actionnaires bancaires ou assureurs. La Coface a été mise en bourse à la fin des années 90, et puis est rentrée suite à une OPA dans le groupe Banque Populaire Natixis. Et donc c'est désormais le groupe Caisse d'Épargne Banque Populaire Natixis qui est l'actionnaire à 100% de Coface.
Mais totalement privé.
Et donc totalement, absolument, totalement privé. Même si nous continuons à avoir un rôle auprès de l'État français, nous gérons un service public d'aide, d'assurance crédit au grand export, chose que les marchés financiers privés ne peuvent pas assumer.
Autre aspect, la Coface publie chaque année un guide risque pays, tout à fait en début d'année, je crois me souvenir, chez le Cherche-Midi, enfin je ne sais pas si c'est votre éditeur.
Oui.
Et qui a pour vocation donc de donner une note d'environnement des affaires et d'apprécier les probabilités d'incidents de paiement par zone et par pays. Alors bien évidemment, c'est un outil de travail pour beaucoup d'entreprises et cette publication est très attendue. Alors l'ouvrage 2009 est sorti il y a peu de temps. D'ailleurs, ça fait l'objet de commentaires très larges dans la presse. Dans les circonstances d'environnement présentes, je crois que c'est quelque chose qui était particulièrement attendu cette année. Mais je voudrais, avant de vous passer la parole sur le commentaire de ce guide pour 2009, rappeler que j'ai eu plaisir à le consulter, que fin 2007, pour l'année 2008, votre président François David avait eu une vision particulièrement aiguë des perspectives de 2008, puisqu'il disait une année de tous les dangers, en résumé. C'était assez bien vu, peut-être même au-delà de ce que votre président pouvait penser à l'époque. Alors, pour le guide de 2009, Quelles sont les grandes conclusions ou en tout cas les grandes perspectives?
Les assureurs crédits ont une petite légitimité à avoir un discours sur la conjoncture au sens où eux observent donc les délais de paiement et les défauts de paiement sur les flux financiers inter-entreprises. Or, il faut être un acte économique simple, c'est une entreprise commence à aller mal, elle paye avec retard son fournisseur. Quand elle va très mal, elle recommence parfois à payer son fournisseur, sinon elle est mal, elle n'est plus livrée,
c'est ça, oui.
Mais elle commence à mal payer les banquiers. Et donc, finalement, l'assureur crédit est un poste d'observation. Oui, qui
une tour d'observation qui est...
Un peu, disons, assez tôt dans le processus du cycle. Donc, de fait, on repère bien les inflexions conjoncturelles. Donc, quand il y a eu ce choc qui s'est de la crise du crédit financier sur les marchés financiers qui s'est développée à partir de l'été 2007, on a senti immédiatement que quelque chose de gros se préparait dès lors que ça déstabilisait tout le système financier, que ça touchait à l'immobilier qui toujours a des conséquences conjoncturelles fortes, et donc, au fond, année de tous les dangers. Comme tout le monde, je pense, on est un peu en arrière de l'événement, soyons clairs, sauf les gourous de l'Armageddon, on est tous surpris de l'intensité du choc, d'autant que c'est un choc qui, à chaque fois, nous apporte des nouvelles supplémentaires négatives. Et d'ailleurs, l'inflation...
Vous parlez de façon générale ou particulièrement sur 2009
Déroulement de ce cycle. D'accord. Ça a été une crise financière, sur le déroulement bancaire, et qui s'est transformée désormais dans une crise conjoncturelle classique, une crise de crédit classique, mais d'une intensité particulièrement forte, puisque... On a déjà dépassé l'étiage 2001-2002 et on est en train de dépasser l'étiage 93 qui était quand même une crise carabinée, il faut se le rappeler, qui avait une dimension immobilière aussi, la crise de 93. Donc ce que nous disons, c'est que désormais, on est dans cette seconde phase d'une crise conjoncturelle classique avec des défauts d'entreprise. Il ne faut pas un discours pathétique non plus. Il y a une dynamique qu'on va observer. C'est un peu comme une épidémie. Il y a un phénomène de contagion. Donc un défaut d'entreprise en amène un autre, etc. Peut-être à la différence d'une épidémie. Vous savez, une épidémie, quand on se protège le choléra, le sida, quand on se calfeutre chez soi, ça freine l'épidémie. Là, le fait de se calfeutrer, d'arrêter ses dépenses, ses achats, ça accroît. Voilà. Donc, c'est la seule différence, peut-être, avec l'analogie...
C'est pour ça qu'on parle de produits toxiques aussi.
Il y a les mêmes choses que... Bon. Alors maintenant, comme une maladie, comme une épidémie, on va voir que les individus fragiles disparaissent. Et donc, les entreprises les plus fragiles vont disparaître ou sont malheureusement en difficulté. Et puis, les individus sains, donc les entreprises solides, dans une conjoncture où quand même, c'était la petite note bleue dans tout ça, on est rentré dans cette crise avec des entreprises peu endettées.
Oui, c'est ça.
Peu endettées par rapport à d'autres crises conjoncturelles, les ménages très endettés, les États, selon les pays, la France y compris, fortement endettés, donc avec une marge de manœuvre conjoncturelle plus faible, mais les entreprises peu endettées. Donc on va voir au cours de l'année 2009, progressivement, l'incendie s'épuiser par manque de matériaux. Et peut-être, alors il peut y avoir un scénario catastrophe, mais peut-être un rebond. Un regard particulier que nous portons sur les événements, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les pays, les BRIC ou les pays émergés. Et notre regard est quand même pessimiste. D'abord, la contagion s'est faite. Il n'y a plus d'exception au monde. Oui. Et il y aura probablement un choc assez violent qui n'est pas encore ressenti. Prenons la Chine, on ne passe pas impunément... Je parle de l'industrie, pas du PIB chinois, d'un taux de croissance 15-20%, ouais. Un taux de croissance, mettons, à 5%.
Ouais. Et c'est un taux de croissance déclaré, et on sait bien que c'est dans un contexte politique très particulier, donc 5% déclaré, on ne sait pas ce que ça veut dire.
Quoi. Absolument. Et le passage, et il semble même peut-être que le niveau de 5-7 que certains prédisent ne soit pas un équilibre stable. Ouais. Le passer d'un régime à l'autre peut passer par une période de récession. Et donc, de fait, ça donnerait une dimension, cette fois-ci, authentiquement planétaire
à la crise conjoncturelle. Tous ne moururent pas, mais beaucoup furent atteints.
Alors, si vous
voulez bien, François Meunier, avant de rentrer peut-être un peu plus dans la vision que vous avez de la crise, nous allons marquer une petite pause.
Bernard Buffet est de ces peintres qui ont connu très jeune un succès fulgurant, puis ont été boudés par la critique. Il a été reconnu à juste titre comme un peintre majeur du XXe siècle par l'Académie des Beaux-Arts et élu membre dans la section peinture en 1974. Écoutez notre émission en compagnie de l'historienne de l'art Lydia Arambourg, réalisée dans la galerie Maurice Garnier. L'émission Bernard Buffet, peintre de la solitude, est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Chers amis, nous retrouvons François Meunier, directeur général adjoint de la COFAS, économiste, avec lequel nous échangeons à la fois, bien sûr, sur l'activité de la COFAS, sur ses métiers, mais aussi sur sa vision à la fois de l'évolution des risques pays et aussi, bien sûr, sur un regard plus général sur le développement de la crise financière. Alors, première question sur ce sujet. Pensez-vous que nous avons, au niveau au moins de la crise financière, c'est-à-dire le côté système financier et bancaire, que nous commençons à approcher le fond du fond, ou y a-t-il encore des risques que l'épidémie fasse beaucoup de ravages ?
C'est difficile à dire. Ce qui est le propre de la situation, c'est qu'on n'est pas précisément... L'élément d'anxiété vient du fait qu'on n'a pas totalement identifié le périmètre du problème. Je parle du système financier.
Ouais.
Et en particulier, cette forme d'impuissance que pourraient avoir les autorités pour faire enrayer ou pour faire redémarrer la machine. Les bilans bancaires sont plombés. Comment traiter cela ?
Il y a ce que veut faire l'Amérique en créant une superstructure de défaisance.
Oui.
Mais enfin bon, c'est ce qu'ils
ont
déclaré.
Vous savez, dans un bilan bancaire, il y a trois choses. À l'actif, il y a des prêts ou des actifs financiers possédés, dont certains sont à déprécier, toxiques, d'autres sont sains, on ne sait pas trop dans quelle proportion. Au passif, il y a leur propre endettement, dont une partie, c'est quand même tout le système des paiements, les dépôts bancaires et autres. Et puis, il y a les fonds propres. Voilà les trois choses. Et le politique hésite, et les conseillers économiques hésitent pour savoir quel endroit taper, où est-ce qu'il faut soigner. Alors, il y a eu TARP, rappelons-nous, avec Paulson, qui consiste à dire il y a des actifs malsains, essayons, illiquides, essayons de réintroduire une liquidité, un prix plus économique, voire même faisons une structure de défaisance. Et puis, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément la solution. Alors, est venu M. Brown, qui a dit « Mais non, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de recapitaliser les banques. Donc, mettons des fonds publics dans les fonds propres des banques. » Et puis, on s'aperçoit que, d'abord, c'est un panier immense qu'il faut remplir et qui est peut-être percé. Et qu'au fond, les finances publiques ne sont pas forcément à la mesure du problème. Alors, on revient, et c'est peut-être ça le sens des mesures américaines envisagées, à nouveau au schéma TARP de M. Paulson. Et j'ai un peu le sentiment que dans la matière, les actifs toxiques, c'est quand même les banques qui les ont achetés, qui les contrôlent les mieux. Je ne vois pas comment les mettre dans une structure de défaisance va faire qu'elles vont être mieux gérées. Il faut que leur valeur de marché apparaisse, donc je suis plutôt pour une sorte de vérité des prix. Mais au fond, est-ce que le problème des banques...
Oui, mais le problème, si on fait apparaître la valeur réelle des actifs, le risque, ce serait de rajouter encore à la défiance. Donc, c'est peut-être un peu ce qu'on peut...
Tout le problème, c'est la
logique, semble-t-il, d'après ce que j'en ai compris, de la défaisance, c'est en fait de focaliser le problème après sur la structure de défaisance et un petit peu d'exonérer... au moins au moment des transferts, les banques de ce risque de défiance.
Parce que la structure de défaisance est obligée de racheter les actifs
à
une certaine valeur, qui n'est pas leur valeur nominale, mais qui est bien leur valeur économique. Quelle est-elle ? Tout est la question. Il me semble qu'il y a un angle qui est encore trop peu regardé, c'est de voir, non pas fonds propres, non pas actifs, mais le troisième bout, qui sont les dettes des banques. Donc, comme vous le savez...
L'économie de dette, c'est ce que vous avez développé dans...
Voilà, comme vous le savez, les banques centrales ou les trésors donnent des formes de garanties sur l'endettement interbancaire pour fluidifier le marché. Mais peut-être il faut songer à des mesures consistant à déprécier ou à transformer une partie des dettes financières des banques en capital. Les recapitaliser, mais sur compte... des obligataires qui ont prêté peut-être imprudemment aux banques d'investissement de la terre.
Oui, c'est une autre voie.
Ce qui serait probablement une troisième voie.
Donc vous êtes encore prudent pour sur, on va dire, la fin du cycle.
Absolument.
Alors, Dans ce contexte, bien entendu, les entreprises, vous le disiez tout à l'heure, souffrent. Et bien sûr, se reposent des problèmes de la gestion de ces difficultés. Et en particulier, l'évolution du cadre juridique, et notamment sur la loi des faillites, ou enfin, en tout cas, les nouvelles formes de traitement de ces difficultés. Et je sais que vous êtes très, très investi sur ce sujet et que vous avez eu à contribuer et à apporter des réflexions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, sur ces évolutions ?
Bon, déjà, COFAS est professionnellement impliqué en tant qu'assureur crédit sur quel est ce... Faillite, c'est... Hein, la faillite, c'est une insolvabilité. Ça veut dire que la valeur des actifs d'une entreprise est inférieure à la valeur de ses dettes. Je rappelle cet élément de base. Oui. Et au moment où la valeur des actifs flageole et commence à caresser la valeur nominale des dettes, donc quand nous sommes proches du défaut, et ce qui se passe dans une entreprise est extraordinairement complexe, puisqu'en gros... Les créanciers vont commencer à perdre de l'argent.
Oui.
Et il y a en principe un transfert organisé par la loi du pouvoir des actionnaires vers les créanciers qui doivent sauver leur patrimoine. Intervient un troisième acteur, c'est le management. Et puis dans certains pays comme la France, un quatrième qui est le social, les salariés. Et donc les lois sur les faillites sont des lois extraordinairement complexes. C'est toujours de la dentelle. Un des problèmes que nous avons en France, c'est un problème d'instabilité de la loi sur les faillites. Chaque gouvernement fait sa réforme. Voilà. Et alors que c'est un domaine où les anticipations de tous, des entreprises, des banques, des prêteurs obligataires, des salariés y compris, doivent être stabilisées. Où sont les règles du jeu ? Il y a un chapter 11, chapter 7 aux États-Unis qui date de l'époque de Roosevelt. Nous, chaque gouvernement apporte sa petite pierre. La loi sur la sauvegarde y participe. J'observe qu'on est en train, trois ans après, de la modifier. Elle n'est pas inutile. Elle consiste à dire, évitons le fait que le management, qui est menacé dans une faillite, puisqu'il risque d'être remercié, évitons que le management retarde le plus possible la déclaration du fait qu'il va mal. Et donc, au fond, donnons-lui la possibilité de rester aux commandes, de ne pas y substituer l'administrateur judiciaire,
oui.
Et de faire que ce soit lui qui organise, entre créanciers, entre actionnaires, la négociation nécessaire sur la banque. Un pays doit avoir une loi sur les faillites efficace.
Et stable.
Et stable dans le temps. Une faillite peut être quelque chose de relativement indolore, il faut le savoir. Puisqu'au fond, une faillite ne touche pas l'actif économique. Une faillite touche la façon dont actionnaires et créanciers se répartissent les droits sur l'actif économique. Il peut y avoir une faillite sans frottement. Hélas, les faillites ont toujours des frottements. Des salariés qu'on perd, des clients qu'on perd, une notoriété, etc. Il faut absolument stabiliser cette loi sur les faillites.
Et ça, vous pensez qu'il y a des probabilités que les politiques s'emparent de ce sujet à court terme, ou est-ce que le contexte de crise financière renvoie un peu plus tard, puisqu'il y a beaucoup de choses à traiter ?
Le sujet n'est pas facile. Hein. Ouais. Le Royaume-Uni, qu'on donnait beaucoup comme modèle, je vois qu'ils sont très insatisfaits de leur loi sur les faillites, qui est d'une brutalité extrême.
D'accord.
Roi, on évince l'actionnaire, c'est terminé. Alors que il faut peut-être donner sa chance de rebond à l'entreprise. Là, la dernière réforme consiste à donner un peu plus de latitude pour déclarer, pour réputer une entreprise en situation de sauvegarde. Je vous signale que la sauvegarde a un effet économique clair, c'est que tous les créanciers présents se voient subordonnés et passent derrière.
Oui,
et le nouvel endettement passe devant celui des anciens créanciers.
Très bien. Donc, vu sur l'aspect des faillites, alors, en revenant d'un mot quand même, et ça va nous amener vers notre conclusion, sur, on va dire, les responsabilités. Comment en est-on arrivé là, par rapport à la crise financière ? Alors, beaucoup d'acteurs, bien entendu, sont concernés et beaucoup pensent aussi que c'est une responsabilité qui ne laisse personne indemne. Enfin, aucune organisation ne peut être considérée comme n'ayant pas participé à ce délire collectif. Une d'entre elles, un acteur que vous connaissez bien, puisque vous-même, vous avez une action qui est voisine, ce sont les agences de notation. Et les agences de notation ont fait l'objet d'attaques très, très fortes, notamment de la part des pouvoirs politiques et aussi, je pense, des banquiers. Quel est votre sentiment à la lumière de ce que vous connaissez, vous aussi, dans l'exercice de votre métier ?
Alors, un assureur crédit, de fait, a une certaine légitimité à mesurer le risque d'entreprise. Et ça a été un gros effort, chez nous particulièrement, à Coface, de demander à nos analystes crédit, nos arbitres, on dit, de s'astreindre à la discipline d'avoir un langage commun. Nous avons un arbitre au Japon, un arbitre aux États-Unis, un en France. Il faut qu'ils posent le même regard sur ce qu'est un risque de défaut. Donc, même regard, ça suppose d'être obligé de quantifier un peu. Quelles sont les règles, quelle est la probabilité de défaut ? Donc, naturellement, un assureur crédit produit ses notes internes. Et nous songeons que face à se dire, on a près de 20 000 boîtes de par le monde qui sont notées, ce qui est un énorme chiffre. Une agence comme S&P doit en noter 4-5 000 en Europe. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas une valeur ajoutée là-dedans ? Et est-ce que ça ne peut pas être utile dans... Est-ce qu'il n'y a pas un marché par lequel on... Bon. Donc on regarde ceci. Il est frappant dans la crise présente que les agences de notation avaient fini par occuper un espace immense. Elles représentaient la légitimité de la parole sur le crédit. Les fonds d'investissement, les banques, quand il fallait juger d'un crédit, disaient « c'est un double A, j'y vais ». C'est un
mais est-ce que justement, un des problèmes, c'est pas qu'à un moment donné, elles sont rentrées dans une logique de conflit d'intérêts ?
Je ne pense pas que ce soit le problème majeur. Parce qu'au fond, ça peut être, au fond, dès qu'on traite du crédit, les zones de conflit d'intérêts existent forcément. Il y a des intérêts contradictoires, il faut trancher, actionnaires, créanciers. Ça peut être réglé en partie par des procédures clairement affichées, transparentes. Bon. Le problème, c'est qu'au fond, à détenir la parole divine sur le crédit, ça a provoqué un effet, c'est que tous les autres acteurs de la sphère financière
s'en sont remis.
Au fond, s'en sont remis aux agences et ont progressivement sous-investi.
C'est ça. Dans ce domaine.
Une banque prenait un crédit, elle le titrisait, elle le mettait sur le marché, et ce qui est important, c'était de savoir quelle était sa notation, sachant qu'elle ne portait pas le risque. Qu'il y ait une erreur ou pas sur la notation, c'était tout à fait
secondaire. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre chronique, dans votre contribution dans l'ouvrage du Cercle Turgot en matière de sous-investissement dans ce domaine par les acteurs.
Absolument. Et le régulateur se penchant sur la question, il y a un problème spécifique des agences, mais doit s'intéresser au reste. Il faut que les agents qui portent des risques, ou les agents qui font porter des risques aux autres, tels que les sociétés d'asset management, aient des capacités de mesure du risque en interne, ne pas dépendre sans arrêt. Bon. Une autre question, ça a été le fait que cette crédibilité immense qu'avaient les agents de notation, elles l'ont transportée dans un secteur où elles n'avaient aucune légitimité, et c'était tout ce qui était les véhicules de titrisation. Autant connaître ce qu'est la solvabilité d'une entreprise qui existe depuis 30 ans, c'est possible. Autant aller juger par des modèles mathématiques de la solvabilité d'un schéma de titrisation de subprime, c'est autre chose. Et donc elles ont en quelque sorte émis une monnaie douteuse consistant à utiliser leur capital confiance acquise à la dure sur la notation d'entreprise dans un domaine où elles étaient totalement illégitimes. Et là, il y a eu un manquement total. Il me semble que le régulateur... Alors à Bruxelles, on discute de cela, mais là, c'est un petit peu de l'eau claire ce qui est proposé aujourd'hui, doit adresser la question non pas des agences de notation, mais des notes des agences de notation. Il faut que les notes soient crédibles, donc il faut que les méthodologies soient transparentes, il faut que les historiques de pertes soient là, il faut que l'ensemble des acteurs du marché puissent
en transparence juger. Ce que vous dites, c'est que donc le rôle des agences en soi n'est pas remis en question, par contre c'est les outils qui peuvent certainement évoluer, de même probablement que les modèles de risque, etc.
Il faut d'une part qu'il y ait de la concurrence,
des paroles divergentes.
Il faut arrêter que beaucoup de contrats financiers soient écrits statutairement ou réglementairement sur la base de notation, dire j'achète, je n'ai pas le droit d'acheter si c'est en dessous de triple A, c'est forcément déstabilisateur, parce que quand la note passe de triple A à double A, il y a un mouvement de vente automatique qui se révèle sur le marché. Donc le régulateur doit faire attention à tous ces contrats implicites assis sur des notations d'agence. Et puis enfin, il faut un contrôle de qualité. Appelons un chat dans le cas d'espèce. Je pense que l'Europe, là, est un peu en arrière de la main. J'observe que la nouvelle administration Obama songe à remettre sur le tapis la question de la réglementation et la régulation des agents de notation. Je déplore qu'on soit à ce point timide au niveau européen et qu'on ne pense pas à faire tout simplement un régulateur européen et non pas une conférence, une interaction de régulateurs nationaux qui vont évidemment faire perdre du poids à cela. Si la crise peut être d'une certaine utilité, que diable, c'est assez dramatique pour qu'on n'en profite pas pour se poser des questions et faire des bons en avant en matière politique et d'organisation sociale. Si la crise peut être bénéfique, c'est faire prendre conscience aux Européens qu'il y a besoin d'une régulation au niveau européen.
Je voudrais peut-être pour conclure, mais c'est peut-être un exercice peut-être un peu difficile, que vous nous disiez en deux mots quelle est la thèse que vous avez développée dans l'article à apparaître dans la contribution, qui paraît donc dans le cadre du cercle Turgot, regard croisé sur la crise financière, avec cette insertion « Régulation bancaire, la discipline de marché est-elle une illusion ?» Alors, est-elle une illusion ou pas ? Et c'est quoi la discipline de marché ?
Il y a eu, au cours des 15-20 dernières années, un courant très fort de réflexion sur quelle est la bonne régulation. Est-ce que le régulateur est omniscient ? Est-ce qu'il peut lui-même décider ? Bon, la réponse collective, et je pense qu'elle reste vraie, c'est que non, le régulateur doit observer la réalité des choses telle que le révèle le marché. C'est le marché qui donne des prix, c'est le marché qui indique les raretés,
on a bien vu, etc. Les problèmes,
voilà. Donc un régulateur ne peut pas se couper des informations que lui donne le marché. Il doit être méfiant parce que le marché a ses folies, c'est bien connu, mais il ne peut pas se couper du marché. Cette thèse voulait dire que les particuliers, quand il s'agissait de surveiller les banques, eh bien, le marché connaissait les choses. Et ce qui était important, c'était d'éviter la concentration des risques au sein d'une banque. Il fallait absolument que la banque puisse disperser ses risques sur le marché de façon à porter un risque intrinsèque moindre. Ce dont s'est assez peu, disons, soucié à l'époque, c'est qu'on déplaçait le problème du risque qu'on appelle systémique, l'effet domino. Une banque chute, ça fait basculer tout le système financier. Eh bien, cet effet domino existe également sur les marchés financiers. On en a la preuve. Si un actif n'est plus reconnu comme de confiance, plus personne n'en a envie, tout le monde est à la vente, le prix de cet actif chute et ça crée un problème. Donc il y a dans les marchés financiers un aspect de risque systémique. C'est-à-dire que le régulateur, pour mieux réguler les banques, avait dit aux banques « mettez vos risques sur les marchés, titrisez, transformez le crédit en un produit négociable ». C'était ça au fond. Et c'était bien parce que du coup, ça disperse les risques en une myriade de micro-risques qui, en cas de choc, fait que tout le monde supporte un petit peu son pourcentage de perte. Oui. C'était ça qui était la direction donnée typiquement par un Greenspan ou même par un Bernanke qui a beaucoup écrit sur la crise de 1933. Ce faisant, on s'aperçoit maintenant qu'on générait de nouveaux risques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des risques systémiques sur les marchés financiers. Un marché comme le marché interbancaire, qui était le modèle pour les économistes, un marché pur et parfait, liquide, etc., donnant le prix juste, ce marché s'est tout simplement interrompu.
Tout à fait.
Interrompu.
Tout à fait.
Plus de marché. Risque systémique, vous asséchez toute l'économie.
On voit, cher François, que vous développez cette thèse avec beaucoup de passion, mais il ne faut pas qu'on en dise trop, parce qu'il faut qu'on donne envie à nos auditeurs d'aller faire l'acquisition de ce livre qui paraîtra donc fin mars, dont je rappelle le titre, « Regard croisé sur la crise financière par le cercle Turgot », qui paraîtra donc chez Erol. Une nouvelle fois, je voulais vous remercier pour cet entretien. Je crois qu'on connaît mieux maintenant l'homme et l'entreprise. Et puis, je pense qu'on se reverra au moment où sortira l'ouvrage, qui peut-être paraîtra au moment où on aura une visibilité un peu meilleure de la situation financière économique mondiale. Merci encore à vous et à très bientôt. Merci.
Merci.